France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 12 France.
Je suis censé partir à Durham, en Caroline du Nord, chez mon importatrice. Et donc, on est vraiment dans l'expectative, on ne sait pas quelle sauce on va être mangé. Donc pour l'instant, tout est arrêté, tout est en stand-by quoi, pour les États-Unis. S'il y avait cette taxe à 200%, ça représenterait le prix multiplié par 3. Je trouve ça dommage parce que c'est toujours les vignerons, toujours l'alcool et tout ça qui sont otages des relations diplomatiques entre les pays.
Bon, d'abord, on est parti de 200%, donc quand on est passé à 20%, on était soulagé. Maintenant qu'on passe provisoirement à 10%, c'est encore mieux. Donc là, on va pouvoir, a priori, reprendre les expéditions avec un petit arrangement entre fournisseurs que je suis, importateurs, distributeurs, et au final, le client aura pour 10%, aura une inflation plutôt modique. Là, a priori, il devrait y avoir un afflux d'expéditions. Il devrait y avoir peut-être un embouteillage au niveau des bateaux, parce que beaucoup partent du Havre. Donc là, il va falloir trouver les bateaux, les conteneurs, tout le reste. Disons que sur les 60 premiers jours, si Trump tient parole, il devrait y avoir pas mal d'expéditions. Et après, on retourne dans l'incertitude et on aimerait bien ne pas être incertain.
Expédier au plus vite avant de peut-être voir les droits de douane exploser. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, le secteur des vins et spiritueux retient son souffle. Mi-mars, le président américain a menacé de taxer à hauteur de 200% les importations de vins et spiritueux européens, soit une quasi-fermeture du marché américain, un cataclysme. Finalement, début avril, l'annonce tombe. Les droits de douane des produits européens sont désormais taxés à 20%, un pourcentage jugé insupportable pour la viticulture française qui chiffre sa perte nette à 1 milliard d'euros. Mais dans une volte-face désormais ordinaire, Donald Trump annonçait ce mercredi une pause de la hausse des droits de douane de 90 jours. Les produits européens ne sont plus taxés qu'à hauteur de 10%. Vous aussi, vous vous perdez dans cette saison 2, épisode 4 de la télé-réalité de cette guerre commerciale menée tambour battant par le président américain ? Nous aussi. En attendant, dans les vignobles, c'est un soulagement teinté d'incertitude qui pointe ces derniers jours. Mais jusqu'à quand ? Déjà fragilisés par la crise climatique, les sécheresses, la surproduction et nos changements d'habitude de consommation, la filière est en proie au vertige. Comment la France, cette patrie du vin, ses 363 appellations, ses terroirs et ses cépages, ses 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année, peut-elle faire face à ces crises existentielles ? Faudra-t-il, comme dans le Bordelais, arracher une partie de la production ? Faudra-t-il se diversifier dans le maraîchage ? Dessiner une nouvelle ère pour la production, moins chargée en alcool, plus qualitative ? Ou faudra-t-il que certains meurent face à la baisse continuelle de notre consommation? Au sommaire de 12 France, de Cognac à Bordeaux, le tournis des vins et spiritueux. Venez, je vous emmène. Et avec nous, en duplex, Joël Bouey, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vigneron dans le Gers, comme on l'entend à votre accent, Joël, à Saint-Mont exactement, et vous êtes président des vignerons coopérateurs de France. Bienvenue, on est ravis de vous recevoir.
Merci, et je suis ravi d'être avec vous aussi.
Eh bien écoutez, ravi. Sylvaine Boulanger, vous êtes vous aussi en duplex, vous êtes géographe, maître de conférence HDR en géographie, vous avez co-dirigé Terre des Hommes, Terre du Vin aux presses universitaires François Rabelais en 2021 et vous êtes également co-autrice de l'Atlas de la vigne et du vin, un nouveau défi de la mondialisation. Ça a paru chez Armand Collin en 2015. Bienvenue à vous.
Bienvenue, merci beaucoup et merci de votre invitation.
On est ravis de vous recevoir. Alors, on entendait à l'instant ce vigneron dire le vin et l'alcool en général est un otage des relations diplomatiques entre pays. Joël Bouey, est-ce que c'est le cas ?
Mais disons que quand on veut s'attaquer à un symbole de ce qui représente la France ou plus largement l'Europe, effectivement, quand on est vu des États-Unis ou même de Chine, le vin, c'est quelque chose, les spiritueux représentent quelque chose, effectivement, dans l'imaginaire collectif, et c'est un symbole de l'image et de la représentation française ou européenne, effectivement. Et là, on parle des États-Unis ces jours-ci, mais quelques mois en arrière, le cognac et l'armagnac tremblaient sur des sujets chinois qui concernaient les batteries de voitures électriques. Donc, vous voyez.
Oui, parce que dans les mesures de rétorsion prises par l'Union européenne vis-à-vis des véhicules électriques chinois, qui sont taxés à 37%, voilà. Du coup, les Chinois ont intégré des taxes sur l'Armagnac et le Cognac, c'est bien ça?
Exactement. Et puis là, maintenant, eh bien, c'était des mesures par rapport à l'acier, à l'aluminium, et un conflit qui naît avec les États-Unis et les produits. Alors, pour le coup, tous les produits européens sont concernés. Mais on avait déjà subi une expérience en 2019 où là, c'était les vins français qui avaient été taxés à ce moment-là. Donc, quand on veut faire mal à la France, on tape sur les vins et les spiritueux, quand on est une puissance étrangère.
Sylvaine Boulanger, justement, Joël Bouey nous disait à l'instant, en 2019, c'est déjà arrivé. En l'occurrence, les viticulteurs français ont en mémoire cette sanction douanière à hauteur de 25%. C'était Monsieur Trump, déjà en représailles dans le cadre d'un conflit Boeing-Airbus. Cela avait touché l'ensemble des vins français, mais ça avait épargné le champagne. On avait chiffré l'impact à l'époque à 450 millions d'euros. Donc ça veut bien dire qu'en fait, ce n'est pas la première fois. Et si je puis dire, Sylvaine Boulanger, la filière est peut-être un peu habituée. Elle sait faire face ou pas? Ou là, il y a quelque chose qui est en train de changer?
Alors, on pourrait dire que la filière apprend à faire face. Elle n'a pas le choix. Elle fait face. Effectivement, alors lorsqu'il y avait cette première taxe Trump, c'était contre, surtout adossé aux vins tranquilles. Dans un premier temps, les vins tranquilles de moins de 14 degrés.
Alors, les vins tranquilles, pour être clair pour nos auditeurs, ce sont des vins sans bulles.
Voilà, c'était les vins sans bulles, donc les champagnes avaient été épargnés. Donc il faut toujours, à mon sens, nuancer ces questions de taxes, parce que ça a été d'abord les vins tranquilles, donc sans bulles, qui faisaient moins de 14 degrés. Puis après, lorsque Trump a quitté le pouvoir, il a imposé une taxe sur le cognac, là encore une fois, sur les vins à haute vie. Donc, et cette taxe a été simplement, lorsque Biden est arrivé au pouvoir, suspendue. En théorie, ça devait être suspendu jusqu'au mois de juin, donc 2026. Donc effectivement, nos vignerons font avec. Je dirais, ils sont habitués, j'espère que non, c'est pas le terme que je pourrais employer, mais ils doivent composer avec ces taxes-là. Et ils composent, eh bien, en cherchant des nouveaux marchés, quand c'est possible. Pour certains, ils font le dos rond, ils attendent. Pour à certains moments, sauf erreur de ma part, ils avaient essayé d'exporter quand même vers les États-Unis parce que c'était dans des contenants. La taxe était simplement liée au fait que le vin devait être dans un contenant, hein, de moins de 2 litres à l'époque. Donc, ils avaient essayé de vendre en vrac, puis après mettre en bouteille sur place. Donc, si vous voulez, ils cherchent des parades, des solutions, mais ce n'est jamais confortable. Parce qu'il est vraiment important, à mon sens, de rappeler qu'effectivement, les États-Unis, c'est le premier pays importateur des vins français. Mmh. Donc, pour nos vignerons, c'est un marché important.
2,3 milliards d'euros en 2024, oui. Hein, sur les ventes de vins, effectivement.
Oui, oui, absolument.
Et on voit bien qu'il y a une dimension, effectivement, de prise en otage des producteurs de vins, parce qu'il y a cette dimension identitaire, comme nous le disait Joël Bouey à l'instant.
Oui, oui, c'est la question identitaire. Joël Bouey a très bien dit les choses. L'idée de l'identité, du patrimoine, de la culture. Et derrière, on pourrait aller encore plus loin vers nos appellations d'origine, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais c'est vraiment ce point-là. Et pour les vignerons, ce qui est vraiment compliqué à vivre, c'est cette idée d'avoir toujours l'impression de subir, de faire partie des dommages collatéraux, de subir les tensions, de combats qui ne sont pas les leurs, si vous voulez. Mais parce qu'on est aussi dans une économie mondialisée. Et c'est ça qui est important. Donc le bon côté de l'économie mondialisée, c'est parfois de pouvoir vendre à l'étranger quand c'est possible. Donc principalement, là, on va évoquer les États-Unis et la Chine. Mais le revers de la médaille, c'est effectivement que lorsqu'il y a des tensions avec nos principaux importateurs, eh bien nos vignerons qui ont parfois déjà des difficultés à vendre sur le territoire national, subissent de plein fouet ces taxes qui sont proposées, ou je dirais imposées.
Alors justement, plongeons-nous, hein, nous avons parlé du cognac, plongeons-nous dans cette eau de vie. Hein. Le cognac, c'est le grand perdant de l'annonce de l'augmentation potentielle de ses droits de douane. Gaëtan Baudin est justement producteur de cognac, il y possède 40 hectares et il répond à nos confrères du Figaro.
Le cognac s'est exporté à 98%, 70% de ces exportations sont basées sur deux gros moteurs que sont les États-Unis et la Chine, donc c'est 30, on va dire 35 et 35. Quand la consommation de cognac baisse, donc du coup les ventes baissent et les expéditions baissent. Enfin, il y a un moment, il y a un coût de production qui est incompressible. Moi j'ai investi dans un alambic, la thermorégulation, les cuves, j'ai du foncier, je me suis installé en 2013, j'ai acheté du foncier, j'ai un emprunt, je peux pas le supprimer, quoi. C'est que faut que je paye, de toute façon. La filière, c'est des emplois directs et indirects. C'est des viticulteurs, c'est des tonneliers, la verrie, le verre, enfin tout l'écosystème. C'est plus large que ça. C'est, je pense, les collectivités, les mairies. En fait, tout le monde est très, très, très inquiet parce que tout le monde a bien compris que l'effondrement de la filière et du cognac, en fait, c'est l'effondrement de tout cet écosystème. Et si aujourd'hui, on a une ruralité dynamique, c'est grâce au cognac. À long terme, l'impact il peut être énorme, quoi. C'est si 3500 viticulteurs disparaissent suite aux taxes, les jeunes n'y resteront pas. Donc ça veut dire que leurs enfants n'iront pas dans les écoles. Enfin, c'est toute la dynamique en fait rurale qui peut être remis en cause. À court terme, ça sera dévastateur. À moyen terme, ce sera dévastateur. Et à long terme, ça le sera aussi. On n'a pas de plan B, quoi. Hein. C'est faut nous sauver, sinon c'est désert rural. Hein.
Il faut nous sauver, sinon c'est désert rural, nous dit ce producteur. Est-ce que c'est exagéré, Joël Bouey, ou est-ce que véritablement on peut se dire que le risque, c'est que 70 000 emplois soient supprimés dans la filière, comme certains l'annoncent?
Il faut savoir que souvent, là où on plante des vignes, il n'y a guère que des vignes qui peuvent y pousser. Et donc... ce vigneron a raison, dans la mesure où, effectivement, spontanément, on n'arrache pas une vigne pour mettre en place une autre culture, parce que aussi les évolutions climatiques font que la vigne est une des plantes qui arrive à s'en sortir le mieux dans le cadre d'un réchauffement climatique ou d'un amoindrissement de la ressource en eau.
Ce que vous nous dites, en fait, c'est que, par exemple, sur l'appellation cognac, si on arrache les vignes, on ne fera pas du maraîchage ?
Ben, pas obligatoirement. Mm-hmm. Du maraîchage, à plus forte raison, pour faire des légumes. Je suis également producteur de fruits, et j'en sais quelque chose, il faut de l'eau. Mm-hmm. Il faut avoir de la disponibilité en eau. Et ça marche pas automatiquement. Et il faut la créer, cette ressource, souvent. Parce que là où il y a des vignes, justement, c'est ce que je disais, il n'y a pas nécessairement la ressource en eau. La région de Cognac est une région relativement humide, proche de la façade atlantique. Donc pour la vigne, il y a naturellement l'apport d'eau nécessaire. Est-ce que ce serait le cas pour des productions de légumes, comme vous le dites, par exemple, pour du maraîchage? Je n'en suis pas certain, malgré tout.
Quoi qu'il en soit, ce que vous nous dites, c'est que la filière, elle est condamnée par ses droits de douane à la fois chinois et américains?
Mais condamnée, non, parce qu'aujourd'hui, on parle de 90 jours aux États-Unis, mais on ne sait pas exactement... ce qu'il en sera derrière, donc on peut pas dire que c'est condamné. Avec la Chine, je pense que on peut aussi espérer que la partie de ping-pong ou de bras de fer plutôt que sont en train de faire la Chine et les États-Unis, eh bien fera que peut-être l'Europe a une épingle du jeu à tirer vis-à-vis de la Chine, justement dans ce conflit. Au moins, ils auront un adversaire commun et que peut-être que la Chine pourrait revenir en arrière sur les projets de taxes qu'elle avait sur les spiritueux. Donc tout ça, en fait, c'est pas du poker menteur, mais il n'empêche que on voit qu'on est dans un flou quand même artistique et que, bien entendu, je suis vigneron, donc je ne vais pas dire que il y a plus d'avenir pour mon métier. Ce serait complètement irréaliste. J'y crois toujours et tous les vignerons y croient pour le coup. Et celui qu'on vient d'entendre y croit aussi. Il s'est installé il y a peu de temps, donc il est en plein développement. Et donc on a besoin de se raccrocher à tous les signaux qui peuvent donner espoir. Il faut admettre que par les temps qui courent, ils sont un peu plus clairsemés que par le
il y a quelques nombreux, mois ou quelques années en arrière. Mais on entendait ce matin, enfin il y avait un appel du pied du président Xi en Chine qui appelait les Européens justement à faire front commun face aux États-Unis. Mais Sylvaine Boulanger, est-ce que ça signifie que le cognac, au vu de la structuration de son marché qui était plutôt tourné vers l'export, ça veut bien dire aujourd'hui que dans ce moment que certains qualifient de démondialisation, de retour vers les marchés intérieurs, et ben il y aura forcément de la casse.
Alors la question est vraiment délicate parce que dans ces maisons de cognac, on a aussi on peut parler de grandes maisons qui ont une assise financière qui permet d'accuser, si vous voulez, d'une certaine façon, certaines pertes. Mais d'un côté, on a les maisons, mais le cognac, c'est vraiment un vignoble particulier en France parce que c'est un vignoble essentiellement où vous avez encore beaucoup de viticulteurs qui sont polyculteurs, qui font encore des céréales, peut-être pas du maraîchage, mais davantage de céréales. Et ces viticulteurs, très souvent, récoltent le raisin, font du vin, mais vendent après ces raisins ou ce vin aux maisons de champagne. Mmh. Donc, j'ai envie de dire, les maisons de champagne, si parfois, ou peut-être, je l'espère, peuvent assumer certaines pertes, la difficulté, finalement, rebondit et se répercute sur ces viticulteurs. Et l'homme que vous avez interrogé disait des choses vraiment fondamentales. C'était l'idée qu'effectivement, c'est toute la ruralité qui est percutée de plein fouet par ces difficultés-là, parce que vont faire les maisons de champagne si progressivement le marché décline, hein, ou elles ne peuvent pas vendre ou exporter? Eh bien, elles vont moins acheter de raisins ou de vin à ces vignerons, et ce sont eux qui vont devoir donc soit à terme peut-être arracher, vendre ou faire autre chose. La difficulté est là. Mais en même temps, je crois qu'il faut aussi rappeler certains faits qui me semblent très importants. Par exemple, après le Covid, en 2022, le cognac a connu une année fantastique. Mmh. Donc les ventes sont reparties à la hausse après la pandémie. Et en 2023, eh bien, la filière a dû réguler à nouveau les rendements et les diminuer pour pouvoir répondre à le marché qui retombait peut-être légèrement. Donc si vous voulez, c'est constamment cette idée de « il va falloir qu'on se régule par rapport au marché international qui de facto est très fluctuant, mais aussi à ces événements, je vais dire ces accidents donc liés à ces taxes potentielles imposées par l'étranger. » Et c'est important parce que dans les périodes euphoriques, il faut aussi rappeler que la filière a énormément planté de vignes. Près de 90 000 hectares étaient prévus et ont été largement plantés en 2023. D'autres éléments ont été reportées. Donc vous voyez, ce qui est toujours compliqué dans ces marchés, c'est au-delà des problèmes avec les États-Unis et la Chine, c'est toujours de s'adapter, même dans des moments euphoriques, pour toujours se dire, bah, après il y aura peut-être une baisse, et si on fait planter, bah, ce sont ces viticulteurs-là du cognac qui effectivement vont subir de plein fouet les grandes difficultés que peuvent connaître les maisons qui vont exporter. Ouais, parce que vous l'avez très bien dit, on ne boit quasiment pas de cognac en France.
Oui, mais c'est bien le sujet, effectivement. Est-ce que j'entends finalement, Sylvaine Boulanger, entre les lignes, et j'aimerais bien, Joël Bouey, que au titre de votre présidence des vignerons coopérateurs de France, vous puissiez me répondre, c'est qu'il y aurait finalement des effets de bulle, presque un peu spéculatifs, eu égard à des effets d'aubaine. Alors finalement, dans un marché mondialisé, est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de correction naturelle?
Alors, la correction, elle est plutôt brutale, pour le coup. Une correction naturelle, à vrai dire, ce serait une courbe qui s'inverse et qui progressivement décline parce qu'elle a tutoyé un sommet à un moment donné. Je ne sais pas si on a tutoyé ce sommet. En réalité, il y a encore aujourd'hui des capacités à produire qui sont supérieures à ce que nous avons connu jusque-là. Donc, leur capacité à produire du cognac est supérieure à ce qu'ils ont produit jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et donc, ils mettent en place des politiques de régulation de la production, justement, pour éviter de trop se faire déborder. Parce que bon, ils ont une seconde cartouche, c'est que le cognac a la capacité, comme tous les spiritueux, à pouvoir vieillir un peu. Donc ça permet aussi de tamponner la mise en marché et à absorber ces décalages qu'il peut y avoir entre la production et la mise en marché. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment difficile, parce que c'est vrai pour les spiritueux comme pour les vins tranquilles. La réalité, c'est que le marché ne supporte pas l'incertitude. Or, aujourd'hui, on se retrouve depuis 2 ans maintenant, en gros, depuis que la guerre a commencé en Ukraine et en Russie. La réalité, c'est qu'il y a une partie de la déstabilisation qui a commencé à ce moment-là, dans les habitudes de consommation et dans le fonctionnement de notre monde, avec un pic d'inflation qui a suivi l'entrée en guerre et la disponibilité de l'énergie. Et puis derrière, c'est les problèmes avec les Chinois, et puis maintenant avec les Américains. En fait, ça fait deux ans et demi, qu'on est dans un environnement qui rend la consommation plus difficile, pas que des vins et des spiritueux d'ailleurs, hein. On peut le voir ailleurs sur d'autres produits aussi.
Oui, comme le bio.
Et c'est vrai que ça...
Ceci vient s'ajouter aussi à la crise Covid qui a profondément percuté votre secteur.
Et qui a modifié les habitudes de consommation et la façon de vivre des gens. Mm-hmm. Donc tout ça, il y a un enchaînement qui, lui, par contre, va très très vite. Et une vigne, quand elle est en place, malheureusement, elle y est pour 20, 30, 40 ans. Et on ne met pas des grands coups de barre dans la production.
Ouais.
On peut, si on fait du maïs, on peut faire du blé ou de l'orge l'année suivante. Ça ne dure qu'un an. Mmh. Quand on a planté la vigne, elle est là et il faut faire avec. Et il faut trouver une solution aux raisins qu'elle produit chaque année.
Mmh. Sylvaine Boulanger, c'est vraiment une percussion des temporalités, le temps long de l'agriculture et de la terre versus l'accélération du temps politique, économique, avec les fractures qu'on a connues du Covid à la guerre en Ukraine, à aujourd'hui cette guerre commerciale qui est en train de s'ouvrir.
Oui, ben Joël Boy a parfaitement parlé. C'est la grande difficulté quand il évoquait l'idée du temps de réaction, c'est exactement cela. Fondamentalement, la viticulture, c'est particulier dans l'agriculture. Il faut vraiment le rappeler. À la fois, la viticulture a des capacités plurifonctionnelles pour aller jusqu'à l'œnotourisme, mais lorsque la vigne est implantée, effectivement, on ne l'arrache pas l'année suivante. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. La vigne, elle donne à plein régime, elle est parfaite. Jusque 20, 30 ans. Et puis, il dure beaucoup plus longtemps, bien évidemment. Mais encore une fois, le vigneron, ce qui est terrible pour le vigneron, c'est cette incertitude. Et pourquoi est-elle terrible? C'est parce que les choix qu'il fait aujourd'hui, lorsqu'il va planter tel ou tel cépage pour répondre à une demande qui a évolué, il a besoin. Il aurait besoin d'être sûr que la consommation derrière va suivre à peu près dans la même direction. S'il plante des cépages rouges, des cépages blancs, s'il fait après des assemblages de telle ou telle sorte pour répondre à la demande. Et c'est très compliqué pour eux de pouvoir programmer. Si vous voulez, un plan de plantation, d'une certaine façon, de programmer, de chercher des marchés. Parce que s'ils vont chercher un marché pour le rosé ou pour du vin rouge et puis qu'ils se rendent compte après que finalement ces vins rouges ne pourront pas perdurer parce que la demande ne va pas justement suivre, voyez-vous, c'est extrêmement anxiogène. Et parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une plante annuelle.
Oui, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ce qualificatif d'incertitude. Alors, Jacques-Olivier Pem est directeur exécutif de Wine Origins Alliance, un organisme international qui regroupe des dizaines de vignobles internationaux et dont la mission est de défendre les appellations et le libre-échange. Et il revient sur cette guerre commerciale qui s'annonce au micro d'Antoine Dulster.
Le vin est un produit fortement taxé dès lors qu'il y a une crise majeure entre deux pays et si l'un d'entre eux est producteur de vin. Je vais vous donner un ou deux exemples. La Chine, récemment, avait accusé l'Australie de vendre son vin à des prix inférieurs à ceux du marché chinois, ce qui nuisait aux producteurs locaux. Évidemment, c'était en réponse à une attaque notamment des Australiens sur la gestion de la crise Covid. Et en 2020, la Chine a fait appliquer des droits de douane jusqu'à 218% pour certaines compagnies australiennes productrices de vin. Donc ouais, il est un taux extrêmement élevé, évidemment, qui n'a pas été conséquent sur la santé de la filière australienne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, évidemment, toute modification des conditions des échanges entraîne une incertitude, entraîne une instabilité et donc nuit à la construction et au pilotage des politiques commerciales des entreprises. Autre chose qu'il faut avoir en tête, la filière vitivinicole, en France, mais en fait, pas qu'en France, dans le monde entier, est une filière qui est dans sa très très grande majorité composée de petites et de moyennes entreprises. Donc vous comprenez bien qu'elles ont des moyens limiter pour sans arrêt s'adapter à ces changements soudains qui sont imposés par les droits de douane. Et pour elles, c'est compliqué. Elles font des efforts de développement commercial, de marketing pour s'intéresser, pour pénétrer de nouveaux marchés dans des conditions qui sont telles un certain jour et qui peuvent varier subitement, soudainement, comme les décisions récentes l'ont montré. Il faut souligner aussi que près de 50% du vin qui est produit dans le monde est échangé internationalement, ce qui donne aussi la mesure, une ampleur de l'importance du commerce international dans le vin, et qui montre bien que la difficulté de ces entreprises à participer, si je puis dire, et à œuvrer dans le cadre de ce jeu. Et puis enfin, je rajouterai une dernière chose, c'est que l'on parle aujourd'hui beaucoup de barrières tarifaires, à l'image de ce que l'administration Trump vient de soumettre. Mais dans le vin, les barrières douanières, les obstacles principaux, c'est ce qu'on appelle les barrières non tarifaires. Donc, commerce international, ce sont, pour le vin par exemple, toutes ces mesures qui vont concerner des règlements d'étiquetage, qui vont concerner des règlements phytosanitaires, ce que le vin doit avoir ou ne peut pas avoir dans le cadre de sa fabrication. Et il y en a énormément. En France, en Italie, ça nous semble quasiment une évidence. Champagne, c'est champagne. Et seuls les vins de champagne peuvent provenir de la région délimitée de Champagne et d'un cahier des charges tout à fait spécifique. Même chose pour Bordeaux, même chose pour Rioja en Espagne, par exemple, ou du Porto. Voilà. Donc on est très à cheval là-dessus, à juste titre. Mais il faut aussi comprendre que, vu de l'étranger, qui pour nous, nous semble parfaitement logique et important de défendre, ne l'est pas toujours. Ces réglementations, ces questions d'origine, par exemple, sont tout à fait importantes parce qu'elles protègent quelque part le consommateur, en ce sens qu'il trace, il propose une traçabilité du produit et une certification, si je puis dire, que ce qui est écrit sur l'étiquette correspond exactement à ce qu'on est en droit d'attendre d'un produit venant de cette région. Mais certains pays peuvent avoir une approche un peu différente et rend, là encore, les discussions, négociations au niveau international parfois un peu plus difficiles.
Voilà, c'était Jacques-Olivier Pemme, directeur exécutif de Wine Origins Alliance. Sylvaine Boulanger, on a entendu beaucoup de choses dans ce qu'il vient de nous dire, mais on entend quand même en creux cette dimension identitaire que Joël Wayne dont Joël Wayne nous parlait en ouverture de l'émission, qui est finalement aussi sanctuarisée dans les appellations et dans cette forme de norme qu'on a mise en œuvre, notamment au niveau européen sur les appellations. C'est pour ça que c'est à ce point un levier de guerre commerciale.
Effectivement, des appellations et très souvent les points de discussion avec les pays, je vais dire, les pays en dehors de l'Europe. Parce qu'effectivement, on a deux conceptions très différentes. Et dans ces deux conceptions, si on veut dire les choses de façon simple, nous, on a vraiment une conception fondée sur le savoir-faire, sur l'authenticité, sur l'historicité et sur le lieu. D'où l'idée de appellation d'origine, sur le lieu et sur le terroir. Et lorsqu'on a un nom de vin, on l'a très bien entendu, on estime que ce nom, il appartient à l'appellation et il ne peut pas être utilisé ailleurs. On est dans cette logique fondamentale de label public. Or, le monde anglo-saxon, l'Amérique du Sud, la Chine, l'Australie, résonnent de façon très différente. Ils ont une logique de marque. Et pour eux, sur le fond, si on le comprend, on peut saisir en fait leur logique. Pour eux, une appellation finalement pourrait être en théorie utilisée, achetée, parce qu'on pourrait utiliser ce qui est intéressant, ce qui se rattache à ce nom. On va prendre l'Istrac Médoc, eh bien, on apprécie ces paysages-là, on va prendre ce nom, cette appellation, Chablis, qui est très utilisée, Provence aussi, parce qu'on aime ces paysages-là, on aime ce vin-là. Donc on est dans deux conceptions fondamentalement différentes. Et c'est la raison pour laquelle il y avait eu des accords internationaux sur l'idée de propriété intellectuelle liée au commerce. Ça, c'était fondamental. Et on avait réussi à proposer la protection de certains noms et d'accepter que d'autres noms, comme l'appellation Champagne, pouvaient être utilisés par les Américains jusqu'au moment effectivement de ce qu'on appelait la clause du grand-père, jusqu'au moment où ces accords ont été signés. Donc si vous voulez, on est dans deux conceptions foncièrement différentes. Et la seule façon d'avancer pour progressivement faire comprendre que nous, notre logique des appellations d'origine, c'est un savoir-faire, une histoire, etc., c'est d'inciter les autres pays, notamment les pays du Nouveau Monde, d'inciter les autres pays à créer le même type d'appellation pour qu'ils protègent aussi leurs appellations et leurs terroirs. C'est le rôle de l'INAO, hein, de travailler aussi dans ce sens, et ou de signer des accords bilatéraux. On en a un avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie notamment, pour limiter l'utilisation que nous considérons abusive de nos appellations.
Mais on voit bien, Joël Boy, la dimension identitaire qu'il y a derrière. C'est aussi une forme de soft power, pardon pour l'anglicisme, une manière d'exporter une vision de la France, une identité. Lors de votre réélection en juin 2024, vous disiez le vin est la boisson totem du savoir-vivre à la française, symbole de convivialité et de vie en société. C'est aussi une part de cela qu'on exporte.
Mais bien sûr, c'est la culture française qu'on exporte, c'est l'image de la France. Et j'allais dire, c'est à la fois notre richesse et c'est peut-être notre difficulté dans l'évolution que nous devons avoir pour continuer à s'adapter et à des consommateurs qui changent par contre. Et effectivement, nos appellations sont une forme d'assurance. Mais au-delà de cette forme d'assurance, et je suis un fervent défenseur, je suis producteur d'appellation personnellement, et j'y crois beaucoup parce que, comme Madame Boulanger vient de l'expliquer, ça c'est un rapport direct avec le terroir et c'est une garantie de l'originalité de nos produits. Mais par contre, on va devoir travailler pour faire évoluer nos appellations, pour demain offrir de nouvelles perspectives, pour s'adapter à des consommateurs qui évoluent, à des façons de consommer qui évoluent. Et c'est le tournant dans lequel nous sommes aujourd'hui, au niveau de la filière viticole. Et c'est un sujet que je porte dans les caves coopératives, c'est le message que je porte en permanence, de garder son origine, garder son identité, mais en s'ouvrant... en ouvrant les chakras, si je peux dire.
Oui, parce que pour être clair, Joël Boy, pour les appellations, en fait, il y a un cahier des charges qui, par exemple, vous dit quel type de cépage, combien d'alcool, etc. Et au vu des changements qui percutent le milieu du vin aujourd'hui, ces questions doivent être reposées.
Exactement. Et nous devons inévitablement bouger, évoluer. Parce que sinon, les gens iront chercher à boire ceux qui ont évolué, les vins nouveaux, les nouveaux goûts.
Qui sont souvent en vin de France, par ailleurs. Qui ne vont plus chercher appellations.
Qui peuvent être en vin de France parce que c'est une plage de liberté où il n'y a pas toutes les contraintes du cahier des charges de l'appellation. Ça peut être aussi le laboratoire, quelquefois. D'essais de ce qui pourrait être fait dans une zone d'appellation, mais qui ne rentre pas encore dans le cadre de l'appellation. Et puis après, avec des discussions avec l'INAO, les cahiers des charges peuvent évoluer et ces évolutions être prises en compte dans l'appellation. Mais en tout cas, on est aujourd'hui, à l'instant où on se parle, dans des moments où on a l'impérieuse nécessité de se remettre en question dans nos pratiques de vignerons et d'œnologues. Ça, c'est sûr.
Vous écoutez Douce France par Nora Amadi sur France Culture.
À l'heure actuelle, on vend les rouges au même prix qu'on les vendait en 1988. Aujourd'hui, les vignes, personne n'en veut, même si vous les donnez. C'est quand même extraordinaire.
Je suis installé depuis 1979. Il y avait 6 salariés, il en reste 3. Ma fille devait s'installer, elle s'en va.
La vendange 2024 a été catastrophique. On a récolté 60% de moins que les années normales, entre guillemets. Donc là, il n'y a plus de rentabilité, il n'y a plus rien. Et c'est surtout le végétal qui a été impacté. Au-delà de la récolte qui a été ridicule en termes de quantité, c'est le végétal, donc la souche, qui a été fortement impactée par la sécheresse et qui meurt. On est à 50% de mortalité. On ne voit plus de repousse de nouveaux sarments. Donc ça, c'est une parcelle qui est destinée à l'arrachage.
On est obligé de tailler à mort, hein, c'est comme ça qu'on appelle dans le jargon. Et avec une autre machine, donc on va arracher directement les pieds de vigne. On n'a pas le choix, tout simplement. Donc les cours des vins sont très très bas. Et puis bon, ben les matières premières surtout, qui coûtent de plus en plus cher. Et donc ça suffit pas.
On peut parler des conditions climatiques, des complications pour trouver du personnel aussi pour travailler sur les exploitations et la déconsommation également. Parce que si les cours n'augmentent pas, c'est parce que les demandes non plus ne sont pas explosives, quoi.
Connaissez-vous le Dry January ?
Ah ben on voit que c'est un mouvement qui a vraiment pris de l'ampleur, qui est plus qu'une tendance, qui devient un fait de société. Tout le monde a envie de se lancer dans le mois sans alcool. Donc là, je vais vous servir un vin du Médoc qui a été totalement désalcoolisé.
J'essaie de diminuer ma consommation d'alcool simplement parce que physiquement, je vois les effets négatifs de l'alcool. Je suis pas vieille, mais avec l'âge, je le vois quand même. Je le vois sur la peau, sur ma digestion, ce genre de choses. Donc j'essaie d'en consommer moins. Simplement, c'est vraiment une démarche de santé.
Voilà, c'était un petit florilège par Margot Page des défis auxquels sont confrontés les vignerons et les vigneronnes aujourd'hui. On a entendu parler de surproduction, d'arrachage, de changement climatique évidemment, de baisse de la consommation, voire d'arrêt total de la consommation d'alcool. Sylvaine Boulanger, on le disait juste avant, cette question des appellations renvoie, comme le disait Joël Boye, à la nécessité de se réinventer. Aujourd'hui, les défis auxquels font face les vignerons, vigneronnes sont tels que c'est une crise existentielle qui s'ouvre ?
Alors, la crise existentielle, elle ne remonte pas à cette année ni à la pandémie. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Je reviendrai juste sur un point. Effectivement, vous évoquez tous ces enjeux pour les vignerons. Je dirais pour la profession agricole, déjà dans
bien
un
sûr,
premier
tout
temps,
à fait.
Parce qu'on sait bien que on va perdre la moitié, donc la moitié de nos vignerons à plus de 50 ans, puis on va perdre une grande partie des exploitations donc d'ici 10 ans. Mais donc il y a cette idée de transmission, et ça, je crois que c'est un point qu'il faut rappeler, parce que quand on parle des vignerons, de l'adaptation à leur marché, eux, les vignerons, ils ont besoin de vivre déjà là. Donc je laisserai Monsieur Boye parler des vins désalcoolisés notamment. Ils ont besoin de vivre, mais ils se projettent aussi pour transmettre donc leur exploitation à leurs enfants ou à quelqu'un et à une autre personne. Et ce qu'ils souhaitent, c'est transmettre l'exploitation et la meilleure vigne possible. Ça, c'est vraiment un point à rappeler. Le vigneron n'a pas envie de transmettre une vigne en mauvais état, pas du tout. Ça, c'est un premier point. Mais pour pouvoir transmettre cette vigne-là, eh bien, le vigneron, il doit l'adapter. L'adapter donc à la demande en fonction des cépages, mais l'adapter bien. Aujourd'hui, effectivement, on entendait la sécheresse, l'adapter à l'évolution du climat.
Alors, en on terme plante, de, par exemple, du Syrah, de la Grenache, des cépages du Sud en Alsace. Voilà l'adaptation, par exemple.
Alors, voilà une proposition d'adaptation. Et si vous voulez, alors, dans l'adaptation, je crois que j'aimerais juste préciser deux points. Dans cette adaptation, ça peut être l'adaptation à la sécheresse, mais dans le dérèglement climatique, c'est aussi une irrégularité des précipitations. Donc, on peut se retrouver aussi dans les vignobles du Nord avec des excès de précipitations.
Et
donc,
milieu,
les adaptations de nos vignerons, c'est sur les deux volets. Donc, à la fois la Syrah, qui est testé pour 10 ans, donc effectivement en Alsace, mais l'Alsace teste aussi d'autres vignobles pour pouvoir résister à des maladies, comme le fait la Champagne, contre notamment l'oïdium ou contre la flavescence. Donc vous voyez, c'est important, je trouve, de rappeler qu'on a à la fois la question de la sécheresse, mais aussi de l'irrégularité des précipitations. Et là, c'est le grand défi pour nos vignerons. Et M. Boye, il l'a très bien dit, dans les appellations d'origine, aujourd'hui, depuis le début des années 2020, des protocoles sont signés avec les appellations pour faire des tests sur des nouveaux cépages notamment. Donc là, c'est vraiment un point, mais sur des nouveaux cépages, sur la biodiversité, sur de l'agroforesterie ou de la vitiforesterie. Donc, encore une fois, c'est une remise en question des pratiques des vignerons, une adaptation, mais beaucoup de tests.
Sont déjà
et quand
en
on parlait cours. D'incertitude, elle est là aussi pour nos vignerons. Et ils ont besoin d'être accompagnés, notamment par des organismes techniques, l'Institut français de la vigne et du vin, l'INRAE. Mais c'est important.
C'est important.
C'est important, le collectif. Le collectif pour pouvoir avancer.
Joël Boye, on entend aussi cette surproduction comment est-ce qu'on peut faire face quand, par exemple, le Bordelais, on arrache des plants. Fin mars, vous annonciez vous-même un vaste plan d'arrachage en France à cause de cette surproduction. 20% des vignes pourraient être arrachées, soit 150 000 hectares. Et si on fait un focus sur le vignoble bordelais, en 2024, il est passé de 103 000 à 95 000 hectares, bien loin des 125 000 hectares qu'il représentait au début des années 2000. Là, ça veut dire qu'on est véritablement dans une forme de décroissance.
Alors oui, c'est une forme de décroissance. Malheureusement, il y a effectivement aujourd'hui, il y a une inadéquation entre ce que nous sommes capables de produire et ce que nous sommes capables de commercialiser. Et même en 2024, qui est une toute petite année au niveau de la production, qui est historiquement faible, et bien malgré ça, on voit que le marché du vin reste à tonne, qu'il y a des stocks, parce que en face, la consommation est en Bernel aussi. Mmh. Et donc, comme Madame Boulanger vient de le dire, de toute façon, et votre petit reportage était explicite, la réalité, c'est qu'on a des problèmes au debout de la filière, d'aléas de production, d'incertitudes de production. Je suis dans une région où on vient de vivre 4 années successives d'aléas, et on a perdu
d'aléas climatiques.
D'aléas climatiques, oui, tout à fait. Et on a perdu un peu plus d'une récolte en 4 ans. Donc c'est énorme pour les vignerons qui ne livrent pas de raisins, notamment dans les caves coopératives, parce qu'on est payé quand même sur les hectolitres de vin qu'on a livrés. Donc
d'un côté, vous avez ces aléas climatiques qui conduisent à une décroissance réelle de la production. De l'autre, des caves, oui, aujourd'hui en France, il en existe environ 550, des caves et unions coopératives. Et ces arrachages, typiquement, pourraient mettre en danger une centaine d'entre elles. Là, au vu de ce que vous nous dites, on a le sentiment d'une bérésina économique qui s'annonce.
Mais on est alors j'emploierai pas le mot de bérésina économique, en tout cas de difficultés très importantes dans certains secteurs, oui, c'est une évidence et on s'en cache pas lorsqu'on en parle avec les responsables de caves coopératives elles-mêmes.
Il y a une prise de conscience de la filière.
Comment ?
Il y a une véritable prise de conscience de la filière.
Oui, tout à fait. Et on ne cache pas les difficultés dans lesquelles nous sommes et que nous allons traverser, parce que nous ne sommes pas au bout de ces difficultés. Et donc, c'est pour ça que, dans les messages que nous faisons passer, on répète inlassablement qu'il y a nécessité de changer des pratiques quelquefois, parce que on parle d'arrachage. Mais l'arrachage, une fois qu'on a supprimé des hectares de vignes, on va supprimer des hectolitres de vin produits. Mais la difficulté, elle vient souvent aussi du fait que le vin que nous produisions ou que nous produisons, il ne trouve pas un consommateur en face. Mmh. Il n'est plus adapté au goût des consommateurs.
Bah justement, là-dessus, Joël Guay, vous avez lancé vous-même un vin léger.
Ce que je voulais préciser, c'est que quand on a arraché des vignes et supprimé des hectolitres, on n'a pas encore changé le goût du vin que nous produisions. Et c'est là qu'on a un travail supplémentaire à faire. Parce que sinon, si on ne change rien d'autre que faire de l'arrachage, c'est un pansement sur une jambe de bois.
Ce que vous nous dites, c'est une solution court-termiste, en fait, l'arrachage.
C'est une solution court-termiste. Et que si on ne change rien par ailleurs, eh bien, on devrait réappliquer la même solution dans quelques années parce que le problème resterait entier.
Ouais.
Et donc, oui, on fait passer un message. Alors, vous parlez de ce vin blanc à 9 degrés que nous produisons
dans le Gers. Un vin blanc à 9% d'alcool qui sont effectivement aujourd'hui plutôt une attente des consommateurs. C'est plutôt vers ce type de vin aujourd'hui qu'ils vont puisque même si ça implique que, voilà, vous avez, comme vous le disiez à l'instant, des cépages qui naturellement sortiraient plutôt à 13, 14, voire 15. C'est ça, en fait, la transformation.
L'enjeu, il est là aussi, parce que le réchauffement climatique, l'évolution du vignoble fait que les degrés, ils montent progressivement tous les ans et que nous devons trouver des solutions techniques, soit au travail au vignoble, soit par des nouveaux cépages qu'on pourrait mettre en assemblage, soit par des techniques de vinification qui permettent de réduire la charge alcoolique des vins que nous produisons. Ce sera aussi un enjeu parce que effectivement, on voit qu'il y a une demande, y compris. Alors, je suis le dernier défenseur du dry jeunerie, vous pouvez bien vous en douter.
Mais on en entendait pas moins de vous, effectivement.
Mais il n'empêche, c'est quand même une tendance qui existe de gens qui veulent modérer leur consommation d'alcool.
Mais après,
et donc nous devons être attentifs. Ça fait partie du marché et des attentes de consommateurs. Ouais. Et nous devons donc y répondre.
Et là-dessus,
et ça, c'est une évidence.
Et là-dessus, Sylvaine Boulanger, j'aimerais bien vous entendre rapidement parce qu'effectivement, ces changements de consommation sont réels. Alors, on parle du dry January, mais de manière plus large, les Français boivent moins, mais boivent mieux. Depuis les années 2000, ils sont prêts à payer plus cher un vin si toutefois il est de bonne qualité. Et normalement, et ce constat est particulièrement vrai chez les plus jeunes, chez les moins de 35 ans, qui sont prêts à mettre entre 15 et 18 euros dans une bouteille, soit le double de leurs parents et grands-parents. C'est ça qu'il faut accompagner, c'est cette capacité en fait à produire quelque chose qui soit vraiment de qualité. C'est aussi, on voit l'essor des vins bio, biodynamie ou ceux qu'on dit nature. C'est ça qu'il faut accompagner.
Alors, je dirais que de façon globale, les vignerons ont fait une mutation dans l'ensemble du vignoble français vers une production de qualité dans tous les vignobles. Ça, c'est déjà un point clé. La piquette que je pouvais connaître étant plus jeune dans le Languedoc, c'est terminé de façon globale.
La villageoise en briques de lait,
oui,
c'est important
de le rappeler. Il y a eu des plans d'arrachage, de replantation en faveur du Merlot, notamment. On a arraché les gros cépages type Aramon. Donc, c'est important. On a changé déjà l'encépagement. Mmh. On est déjà vers du qualitatif. Mais ce qui est compliqué en termes de demande, à mon sens, c'est le côté très volatile aussi des souhaits du consommateur. Parce que le consommateur, on a tendance à dire maintenant il veut du rosé, il veut des vins désalcoolisés. Je ne suis pas d'ailleurs convaincue de cela, fondamentalement. Que le consommateur veuille des vins qui ne fassent pas 14 degrés, oui. Mais désalcoolisés, je ne suis pas sûre. Hein. Mais ça fait partie de la diversification qui est proposée aux consommateurs et qui peut permettre aux vignerons, aux caves, de vivre, de vendre. Donc, si vous voulez, je pense que l'idée des vins nature, des vins bio, toutes ces gammes de vins, tous ces segments de vins, je dirais même IGP, AOP, Vins de France, ont leur part à jouer. Mais l'idée, c'est que dans chacun, dans leur gamme, à mon sens, doivent toujours garder cette idée de qualité. Parce que ça, c'est un point clé pour le consommateur. Mais la difficulté, c'est que ce n'est pas parce que vous allez faire un excellent vin désalcoolisé ou un excellent vin nature que vous allez forcément fidéliser votre clientèle. Mmh. Parce que les jeunes, mais je dirais les jeunes jusqu'à 40 ou 45 ans, zappent de plus en plus dans leur type de consommation. Ce qui est le contraire de nos aînés, qui achetaient souvent les mêmes vins auprès du même producteur. Donc, la très grande difficulté sur un plan purement économique pour les caves comme pour les vignerons et les maisons, c'est d'essayer de fidéliser ce consommateur. À mon sens, hein, je vois les choses de cette façon-là.
Nous le disions dans cette émission, le monde du vin est en crise, en polycrise presque, on l'a entendu. Il est aussi en constante réinvention, ça aussi, on l'a entendu, et d'abord dans nos imaginaires. Bonsoir Antoine Nulster.
Bonsoir Nora, bonsoir à tous.
Dans votre chronique cette semaine, vous vous penchez sur l'image du vin, sur les écrans et sous la plume des écrivains.
Oui Nora, c'est une longue et même une très longue histoire qui remonte à l'antiquité gréco-romaine. D'Euripide à Horace, les poètes chantent les louanges de Bacchus et célèbrent le vin, breuvage des dieux. Les lettres françaises restent fidèles à cette vision, associant le vin à une expérience visionnaire, notamment avec les poèmes de Charles Baudelaire, on pourrait citer l'âme du vin, ou le vin des amants, ou le vin du solitaire, ou encore le vin de l'assassin. Plus près de nous, il faut citer l'écrivain Robert Girault, grand conteur du Paris populaire de l'après-guerre. Sous sa plume, le vin devient le compagnon de nos joies et de nos mélancolies. On boit pour oublier sa solitude ou sa chienne de vie, comme ici dans un extrait de La Petite Gamberge.
La nuit a toujours le goût du vin rouge, du Beaujolais de préférence. C'est une opinion toute personnelle, d'accord. Mais je ne peux pas entrer dans un bistrot ouvert le soir sans qu'immédiatement mon verre soit là, servi sur le zinc. Dans des cas semblables, le vin rouge a une importance énorme. Les vrais buveurs de vin rouge se retrouvent toujours la nuit. Personne n'a jamais pu en expliquer la raison.
Et cette image d'un vin associé à des excès marque durablement nos imaginaires. Ces années-là, au début des années 60, l'alcool coule à flot dans nos récits, des romans aux écrans. En 1963, dans Les Tontons Flingueurs, la mythique scène de la soûlerie dans la cuisine fait hurler de rire des salles de cinéma entières. L'alcool est festif dans une époque qui l'est tout autant. Mais un basculement s'opère progressivement avec des représentations plus élitistes. On boit toujours, oui, mais en esthète. Par exemple ici, dans un grand classique du cinéma comique, L'aile ou la cuisse, avec une scène mémorable, Louis de Funès, directeur d'un guide gastronomique, reconnaît un grand Bordeaux simplement à sa couleur.
Belle robe vermeille, bel éclat, c'est un Bordeaux. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un Médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Las Cases, 1953. Exact.
Voilà, et les temps changent les années suivantes, d'abord dans les mentalités avec les premières politiques de prévention routière. On s'interroge sur une consommation plus raisonnée et moins festive du vin. Puis on réglemente pour de bon l'image publique du vin en encadrant sa représentation et ses publicités directes et indirectes, y compris sur les écrans, par une loi à l'initiative d'un certain Claude Évin.
La consommation modérée d'alcool peut être tolérée à condition qu'elle soit modérée. Mais pour qu'elle soit modérée, c'est vrai qu'il faut mener des campagnes d'information et que ce plan, ce n'est pas un plan d'interdiction. Il s'agit de faire prendre conscience à nos concitoyens des dangers qu'ils encourent et puis d'autre part de développer une vraie politique de santé publique.
Voilà, Claude Évin en 1990, l'alcool ne disparaît pas pour autant des écrans, évidemment à cette époque, mais le tournant engagé depuis quelques années se confirme. On représente le vin d'abord pour l'associer à des traditions, à un héritage, à une transmission, au sens propre comme au sens figuré, par exemple dans ce film de Cédric Clapiche, Ce qui nous lie.
Goûte côté soleil. Pour moi, c'est jeudi, ça.
Jeudi ? Mm-hmm. Dans 4 jours ?
Dans 4 jours, hein. Mm. Il coûte bien, là, déjà, non ? Tu sens ?
Ah, mais les peaux, elles sont super épaisses.
Et ?
Bah, si c'était bon, elles seraient plus fines, non ? Le jus, il viendrait plus facilement. Regarde, les pépins, ils sont à peine bruns. Franchement, moi, j'attendrais à 4 jours près, on aura plus de chair.
Bah oui, parce que toi, en fait, tu veux faire du vin plus facile, non ? Comme celui de papa. Tu préfères pas un vin plus tendu, avec de l'acidité ?
Ouais.
Et bah alors ?
Alors, Joël Bouey, j'ai envie de vous entendre en réaction aux séquences que nous entendions dans cette chronique. L'image du vin dans la culture avait commencé à se transformer depuis assez longtemps en réalité, dans le sens d'une évolution que vous avez décrite dans cette émission, peut-être consommer moins pour consommer mieux. Est-ce que la culture, avec ses représentations qu'on entendait à l'instant, est-ce que la culture a pu anticiper les évolutions en cours dans la filière ?
J'ai combien de temps ? J'ai pas 4 heures pour faire. Non, il n'empêche que je me baserai à le dernier extrait que vous avez passé.
Le film de
Cédric Clapiche. Il est révélateur de la tendance aussi que nous appliquons en réalité dans la filière viticole aujourd'hui. C'est que, à un moment donné, pour aller chercher moins d'alcool, on va aussi avoir tendance à vendanger un peu plus tôt. Et donc avoir des vins un peu plus sur l'acidité, sur la fraîcheur, effectivement, pour éviter d'avoir des charges alcooliques trop élevées. Mais il est évident que de toute façon, cette dimension culturelle du vin, c'est ça aussi qu'on le dit quelquefois, le vin c'est pas de l'alcool, c'est de la culture. Et c'est un clin d'œil quelque part. Mais ça reflète quand même complètement la place qu'occupe cette plante dans notre univers, dans notre imaginaire collectif. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Et dans les propos de Claude Évin, il y a quelques minutes, là, il parlait de la modération, pas de l'interdiction. Or, aujourd'hui, malheureusement, on bascule trop souvent dans soit on est abstinent, soit on est alcoolique. Mais on n'a pas de, on ne sait plus considérer la modération comme étant le bon centre, le bon axe médian de la consommation du vin. Alors, et ça, je voudrais le mettre en avant. Parce que c'est pas parce qu'on boit du vin qu'on est alcoolique. On doit savoir le boire avec modération. Alors, et si ça, c'est, on devrait plus souvent le répéter et le mettre en valeur, à mon avis.
Sylvain Boulanger, même question que celle que je posais à l'instant à Joël Bouygues. Cette évolution de l'image du vin dans la culture a pu anticiper les pratiques et la consommation?
Oui, alors, ce que je retiens des reportages que vous avez diffusés, c'est surtout l'idée de la convivialité. C'est important de le rappeler. De rappeler aussi que le vin, là, dans la cuisse, le vin, on en parle. On en parle et ça va avec aussi l'idée de la modération. À partir du moment où on prend le temps de parler d'un produit, le vin, de parler de sa culture, la façon dont il est élaboré, peut-être parler de l'homme ou de la femme qui l'a fait, qui a cultivé les raisins. Ce sont des points clés qui, dans tous les cas, incitent à la modération parce qu'on ne peut pas parler tout en buvant trois verres d'affilée. Donc ça, c'est un premier point qui me semble important. Cette idée fondamentalement de culture et de parler. Et d'autant plus sur un autre point, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si on veut relancer ou encore développer la consommation, il faut aussi s'intéresser aux jeunes générations. Je parle des générations majeures, hein, bien évidemment. Et pour leur parler, pour leur faire découvrir du vin, il faut pouvoir, si on veut renouveler le panel des consommateurs, il faut être capable et prendre le temps de leur parler. Or, M. Bois, il le disait très bien tout à l'heure, pour pouvoir parler du vin, il faut prendre du temps. Il faut peut-être aussi prendre le temps de s'attabler, prendre le temps de ne pas être simplement debout dans un cocktail ou faire du snacking. Et c'est ça la difficulté aussi, pour la filière et pour la consommation dont vous parliez, parce que le vin n'est pas tout à fait en phase avec le mode de vie d'une partie de la population ou à certains moments de la journée. Et si, par la culture et la convivialité, on peut prendre le temps de se poser et de discuter, comme on vient de l'entendre dans tous vos extraits, autour d'un produit et non pas de boire la nuit, hein. Là encore une fois, c'est la nuit, et de boire jusqu'à plus soif et s'enivrer, eh bien là, on arrivera à bien encore souligner le fait que le vin, c'est bien un produit culturel, un produit identitaire et culturel. Ça me semble le point absolument fondamental. Savoir parler du vin culture, du vin plaisir, et pas simplement du vin aliment, comme c'était le cas dans les années 50-60.
Mais ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, et l'un et l'autre, et effectivement, cette dimension culturelle, cette dimension traditionnelle, cette dimension de convivialité, s'attabler, prendre le temps, et je vous paraphrase, voilà, tout ceci est percuté par une accélération de nos modes de vie, et on le voit dans un chiffre, en 2002, 4,5% des adolescents de 17 ans n'avaient jamais goûté d'alcool. En 2020, ils étaient 20%. On n'a pas de chiffre de 2025, mais on se doute bien qu'effectivement tout ceci a encore augmenté. Cette consommation, elle a chuté entre 1960 et 2020 de 70%. La question aujourd'hui, faire parler du vin, apprendre à parler du vin, elle est absolument existentielle, j'imagine, parce qu'il est en train, chez une partie des plus jeunes, de devenir finalement un peu has-been, Joël Bouygues. En 10 secondes, je suis désolée.
Mais il devient has-been et c'est aussi pour ça qu'on doit se réinventer et s'approprier tous les nouveaux schémas techniques d'élaboration de vins avec moins d'alcool, voire pas d'alcool, parce qu'il faut aussi s'adapter à ces nouvelles générations. Et puis ça ne concernera pas toute la production, ce sera quelques pourcents de la production qui devront basculer sur d'autres créneaux. Et je crois que l'avenir du vin passe par là, l'avenir de la vigne.
Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin, Joël Bouygues. Je suis désolée, Sylvain Boulanger. Merci à tous les deux. Sylvain Boulanger, géographe, je rappelle vos ouvrages. Terre des hommes, terre du vin et Atlas de la vigne et du vin, un nouveau défi de la mondialisation. Merci beaucoup d'avoir passé votre vendredi soir avec nous. Joël Bouygues, vous êtes vigneron, vous, dans le Gers, à Saint-Mont, président des vignerons coopérateurs de France. On trouvera certainement quelques-unes de vos quilles en ligne. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à Antoine Dulster qui a préparé cette émission, à Margot Page qui l'a réalisée. À la technique, c'était Paul Guigue. Et peut-être allez-vous vous resservir un dernier verre pour finir cette soirée. À la semaine prochaine.